Ces derniers temps, nous pouvons dire que nous sommes assez frappés par diverses calamités qui touchent notre monde, notre planète, et qui nous touchent aussi particulièrement. La semaine dernière, il y a eu ce tremblement de terre en Haïti, donc c'était samedi dernier. Et il y a eu près de 2200 morts, plus de 10 000 blessés. Ils font état de plus de 330 disparus. Et j'ai vu qu'un journal a titré « Séisme, tempête, inondation, les catastrophes s'enchaînent en Haïti ». À cela s'ajoute cette tempête tropicale qui a aussi frappé le pays. Et donc, en voyant ça, je me suis souvenu de ce tremblement de terre qu'il y a eu aussi en 2010, qui a aussi frappé ce pays avec plus de 280 000 morts. 300 000 blessés, 1,3 million de sans-abri. On pense à autre catastrophe, ce tsunami en Indonésie qui avait fait plus de 250 000 personnes disparues. Et puis, on connaît cette catastrophe sanitaire mondiale, cette pandémie, Covid-19, qui est là. J'ai regardé, ils disent plus de 209 millions de cas, 4,39 millions de décès. En France, 6,5 millions de cas, 113 000 décès, etc. Donc, en cela, on peut ajouter les catastrophes climatiques. On voit les incendies, on voit toutes sortes de catastrophes comme ça, des inondations. Et puis, les uns et les autres, vous pouvez être confrontés à des catastrophes plus personnelles. Parfois, c'est un accident de voiture, la perte d'un proche, la perte d'un enfant, etc., etc., etc. Et lorsque tous ces malheurs s'abattent sur l'homme, on l'entend et ça peut venir à l'esprit. Mais que fait Dieu? Pourquoi a-t-il permis que cela arrive? Dieu est-il juste en permettant de telles choses? Et c'est plein de questions que les uns et les autres peuvent se poser et nous n'avons pas toujours les réponses. Le Seigneur Jésus-Christ, il a répondu à l'une de ces questions à ses compatriotes. Et j'aimerais que nous lisions ensemble ce texte qui se trouve dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, où la réponse que donne notre Seigneur par rapport aux catastrophes que nous pouvons connaître, c'est qu'il est nécessaire de se repentir. Nous allons lire ces cinq premiers versets de Luc chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est vrai que certains peuvent dire, mais tiens, pourquoi toutes ces calamités, ces catastrophes qui s'abattent sur ce pays, Haïti, qui est l'un des plus pauvres de la planète, est-ce qu'ils sont plus coupables? Est-ce qu'ils sont le plus grand pécheur? Le Seigneur dit non, c'est pas cela. En tout cas, il souligne à deux reprises la nécessité de la repentance. Donc, il y a deux catastrophes qui ont beaucoup touché donc la nation juive. Donc, le massacre de certains Galiléens venus à Jérusalem pour adorer, et Pilate a ordonné leur mise à mort pendant qu'ils offraient leur sacrifice. C'est cruel, ça. Et l'autre tragédie parle de l'écroulement de la tour de Siloé qui provoqua la mort de 18 personnes. En avril 2012, il y a eu en Seine-Saint-Denis, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de ce culte, c'était à Pâques, il y a un plancher qui s'est effondré dans un lieu de culte évangélique. Et il y a eu, c'est en Seine-Saint-Denis, je rappelle le vieux souvenir, c'est en Seine-Saint-Denis, une fille de 6 ans qui est morte suite à cela, et une femme aussi, et plusieurs blessés. Et l'année dernière, lorsque il y a eu donc, le début, on a commencé à connaître un peu ce virus, le coronavirus, cette église évangélique dans l'est de la France où il y avait un cluster là, et bon, voilà, tout le monde a pointé du doigt, mais et on a cherché, certains ont cherché à dire, mais voilà, c'est parce que Dieu n'est pas là, ou bien, voilà, on essaie de dire, voilà, il y a une certaine culpabilité parce que le malheur touche l'autre. Et c'est vrai que la pensée de l'homme face à ces drames, c'est ça. Toutes ces catastrophes ou ces morts soudaines, est-ce l'expression du jugement de Dieu sur ces personnes décédées? Est-ce parce qu'elles étaient de très graves pécheresses? Et vous savez, les amis de Job avaient cette pensée. Lorsque donc ils viennent voir Job, ils restent là pendant plusieurs jours à observer. Et parmi ses amis, dans Job chapitre 4, versets 7 à 9, il y a Eliphaz qui dit à Job, « Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. » Donc pour Eliphaz, si Job souffrait, c'est parce qu'il était coupable d'un grand péché. Et nous lisons ce livre de Job et le Seigneur atteste que Job était un homme intègre et droit. Et qu'à la fin du livre, nous savons que cette épreuve que Dieu a permis dans la vie de Job, c'est peut-être pour que Job puisse dire, voilà, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Avoir cette connaissance beaucoup plus profonde de son Dieu. Donc, est-ce juste de faire un lien entre le mal qui m'arrive, entre le mal qui nous arrive et la condition spirituelle? Est-ce juste? Est-ce que la situation présente que je connais, certes aussi catastrophique, est-elle l'expression de la colère de Dieu vis-à-vis de moi? Et parfois, lorsque nous sommes éprouvés, nous pouvons poser ce genre de questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? La Bible dit plusieurs choses à ce sujet. C'est vrai que l'homme récolte ce qu'il a semé. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans Galates chapitre 6, versets 7 à 8. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Mais aussi, on peut, je ne sais pas si je formule ça bien, mais on peut aussi récolter des fruits qui ne sont pas, en fait, les fruits de ce qu'on a semé. On peut semer le bien puis récolter le mal. Vous voyez? Normalement, on moissonne ce qu'on sème, donc on fait le bien, on récolte le bien. Mais c'est pas si simple que ça. On peut semer le bien puis récolter le mal. L'apôtre Paul, il a eu cette écharde dans sa chair. Voilà. Mais on se dit, mais pourquoi? Et il s'est posé la question aussi et il a demandé à Dieu d'enlever cette écharde. Et le Seigneur lui a dit non. Ma grâce te suffit et il faut que ma puissance s'accomplisse dans la faiblesse. Donc on a parlé de Job qui a perdu ses biens, qui a perdu ses enfants, lui-même qui était touché par cet ulcère malin depuis, le texte dit, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, alors que cet homme était un homme intègre et droit qui craignait Dieu et s'est détourné du mal. Notre Seigneur Jésus-Christ aussi est un exemple d'une personne qui a semé le bien et qui a récolté le mal. Il a été crucifié à cause de nos péchés. Il a pris sur lui nos fautes. Il est allé sur cette croix. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, comme il est dit dans Galates. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Il n'y avait aucun motif d'accusation valable. Donc, quoi qu'il en soit, par conséquent, le malheur, la souffrance que l'on connaît n'est pas forcément la conséquence d'un péché dans notre vie. Pour beaucoup, c'est vrai que dès qu'il y a un malheur qui s'abat sur eux, la pensée qui vient à l'esprit vient « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» C'est « Voilà, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Dans Jean au chapitre 9, je peux lire ce passage là, les disciples de Jésus ont posé aussi cette question dans Jean chapitre 9 donc Jean, l'évangile de Jean chapitre 9 verset 1, il dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et où personne ne peut travailler. » Vous voyez ? Donc, les disciples, c'est qui a péché ? Il est né aveugle. Mais qui a péché? Est-ce que c'est lui ou est-ce que ses parents? Ce sont ses parents. Donc c'est une pensée que l'on a ou que l'on peut avoir lorsque on est frappé, touché par le malheur. On peut dire que c'est l'entrée du péché dans le monde. Au commencement, lorsque Adam et Ève ont fait le choix de désobéir à Dieu et ont commis donc ce péché en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qui a provoqué tout ce cataclysme. Déjà, le péché est entré dans le monde et la corruption aussi est entrée dans le monde. Donc Dieu, il dit dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement. » Donc l'entrée de la mort, l'entrée aussi des conséquences aussi est liée à cela. Donc malheureusement, Adam et Ève ont mangé le fruit de cet arbre et la malédiction est entrée sur la terre. Caïn a tué son frère Abel. Quelle catastrophe pour les parents lorsque il y a ces fratricides. Un frère qui tue son frère, c'est catastrophique. Il n'y a pas de mots pour chercher à consoler ou on ne sait pas. Je ne sais pas si on peut dire rien de pire que cela. Il y a tellement de choses pires qu'on ne peut pas savoir lequel qui est plus pire que l'autre. Mais en tout cas, à cause de l'entrée du péché, Caïn a tué son frère. Et le mal, lorsque vous lisez la Genèse, le mal qui se propage comme ça, là, dans le monde. Au point que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » On trouve ça dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Donc à cause de cet état, Dieu demanda à Noé, cet homme juste et intègre qui marchait avec Dieu, de construire une arche, car il voulait détruire la terre. Mais il voulait aussi sauver et cet homme juste avec sa famille. Et après le déluge, Noé et sa famille, donc ils ont repeuplé la terre. Mais ils ont repeuplé la terre, mais le cœur de l'homme reste le cœur de l'homme avec le péché. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Et malheureusement, l'homme est pécheur et il est porté au mal. Et donc, malgré cela, on voit que l'homme continue à faire ce qui est mal. Et il faut attendre la venue finalement du nouveau ciel et de la nouvelle terre, dont parle le livre d'Apocalypse, pour voir finalement la fin des catastrophes. Vous savez, il faut que je le dise aussi, même la terre, dans Romains, attends, je vais prendre ce passage, dans Romains, l'apôtre Paul il dit que même la terre soupire, vraiment, les douleurs de l'enfantement, il dit, dans Romains chapitre 8, et nous soupirons tous justement à ce qu'il y ait un changement. Alors, certains, et chacun veut essayer de trouver sa solution pour préserver la planète, etc. Mais il dit au verset 18 de Romains 8, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Les souffrances présentes ou les catastrophes que nous pouvons connaître. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, ce que nous attendons avec persévérance, c'est face à toutes ces catastrophes, c'est vraiment que notre Seigneur revienne. Et dans Apocalypse chapitre 21, après avoir parlé de toutes ces calamités qui vont s'abattre sur la terre pendant cette période de tribulation, donc ce que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est que le commencement des douleurs. Ça va aller en s'empirant, frères et sœurs. Mais nous avons cette espérance. Il dit au Apocalypse chapitre 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Vous voyez ? Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, « car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà l'espérance du chrétien. Voilà l'attente du chrétien. Savoir que oui, viendra le temps où il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc en attendant ces jours merveilleux avec notre Dieu, alors voilà ce que nous dit notre Seigneur sur les catastrophes ou autres événements tragiques que nous pouvons connaître et que nous connaissons là, quand on voit ce qui se passe aux Antilles et en Polynésie, avec ces morts, c'est tragique. Mais, là encore, là le Seigneur nous dit dans le texte de Luc chapitre 13, il le dit à deux reprises, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs ? Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Au verset 5, il dit, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Donc, et le verset 4, il dit, « Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle ait été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem ?» Non, non, non. Donc, les catastrophes peuvent arriver à n'importe qui. La manière de mourir, aussi cruelle que cela peut être, ou aussi paisible que cela peut être, ne détermine pas si l'on était juste ou pas. Et nul est à l'abri d'une catastrophe, c'est ce que le Seigneur dit là. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Une catastrophe va s'abattre sur vous. Aussi, si vous ne vous repentez pas. Et donc, là, à deux reprises, notre Seigneur souligne la nécessité de la repentance. Il faut se repentir. Il le dit à deux reprises. Donc, quelle que soit finalement la catastrophe qui peut arriver, La solution finale reste la nécessité pour l'homme de se repentir. Et c'est ça qu'il faut que chacun retienne encore aujourd'hui. Il est nécessaire pour chacun de se repentir devant Dieu, parce que si vous ne le faites pas, quoi qu'il en soit, une catastrophe va s'abattre sur vous. Et cette catastrophe, lorsque le Seigneur dit « si vous ne vous repentez pas », dans les années 70, il y a eu l'invasion de l'armée romaine et la destruction de Jérusalem. Et donc, il y a eu cette catastrophe qui s'est abattue sur ce peuple. Et ceux qui... Voilà, donc ce que le Seigneur Jésus a dit, c'est vérifié. Et donc, ça reste une parole vraie. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également, parce que la pire des catastrophes qui peut nous arriver, c'est de mourir et d'aller en enfer. Donc c'est cette catastrophe-là qui est là pour chacun. Si vous ne vous repentez pas, voilà cette catastrophe qui va arriver sur vous, c'est que vous allez mourir et vous irez en enfer. C'est triste. C'est triste. Mais il faut l'entendre. Et c'est un avertissement que le Seigneur adresse à chacun. Aux Antilles, ils pensaient qu'ils s'étaient protégés de ce COVID-19 et que c'était pour... C'est tellement loin, ils sont là. Non, ça ne va pas les toucher. Et maintenant, c'est Martinique, Guadeloupe, Polynésie. Ils sont frappés, mais c'est pire que ce que nous avons connu ici, ce que nous connaissons ici. Donc, on pense parfois que ça peut arriver qu'aux autres. Et que nous, on est protégés. On est à l'abri. Et que ce n'est pas pour nous. Et... les messages que vous entendez dimanche après dimanche, ça rentre là et ça ressort là, et vous dites, mais non, ça, c'est pas pour moi. La nécessité de la repentance, c'est pas pour moi. J'en ai pas besoin. Et le Seigneur vous dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ces événements nous démontre aussi que nous sommes tous semblables. La Bible nous dit que l'homme, on est semblable à l'herbe qui sèche, on est semblable à une fleur qui tombe, dans Ésaïe chapitre 40, versets 6 à 8. On est semblable à une ombre qui se promène, qui s'agite vainement, qui amasse et qui ne sait qui recueillera. Le psaume 39, verset 7. Où Jacques nous dit, dans Jacques chapitre 4, on est semblable à une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Dans le psaume 144, verset 3 à 4, il dit, Éternel, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle. Ces jours sont comme l'ombre qui passe. Voilà ce que nous sommes. Donc, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également, le Seigneur dit. Et cette période troublée avec toutes ces calamités en cascade doivent nous avertir, comme le Seigneur Jésus-Christ a averti son peuple, de l'arrivée d'une catastrophe imminente. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc, je l'ai souligné tout à l'heure, cette catastrophe qui a frappé le peuple d'Israël, c'est notamment la destruction de Jérusalem dans les années 70. Donc, oui, le Seigneur nous invite encore aujourd'hui à la repentance, car viendra le moment où une série de calamités s'abattra sur la terre, encore pire que ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. Et c'est vrai que dans l'histoire, il y a toujours eu des périodes de calamités, mais là, il y a un enchaînement, il y a une multiplication, et on voit qu'il y a plein de choses qui... où il y a une certaine coïncidence, une certaine conjonction de faits qui fait que quand on lit la parole de Dieu, on étudie les textes, notamment de l'Apocalypse, mais aussi dans les prophéties, que de plus en plus, les choses vont aller de pire en pire. Donc les catastrophes, finalement, arrivent. Quel est le but des catastrophes? Les catastrophes arrivent pour pousser l'homme à la repentance. Mais au lieu de se détourner de ses mauvaises voies, l'homme persiste dans son péché et sa rébellion contre Dieu. Alors, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 9, donc il y a plusieurs calamités donc, qui vont s'abattre sur la terre. Et Ce que je note dans ces passages, par exemple, dans Apocalypse 9, versets 18 à 21, donc il y a, avant, voilà, il y a la description de plein de choses terribles qui vont s'abattre. Il y a un tiers des hommes qui seront tués. Un tiers. Voilà. Donc, quand vous voyez le Covid, la quantité, je ne sais pas en termes de pourcentage, mais ça vous donne une idée. Là, lorsque la Bible dit qu'au verset 18, le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Vous voyez, le tiers des hommes. Après, il dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Donc, le but des catastrophes, là, un tiers des hommes qui meurent, mais malgré ça, ils ne se repentirent pas. Au chapitre 16, là aussi, vous pouvez voir ça, j'ai noté les versets 7 à 11, là, et il dit, et j'entendis un autre ange qui, de l'autel, disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Vous voyez? Après, le verset 21, il est dit, « Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. » Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Vous voyez, ils ne se repentirent pas. Alors, est-ce que, là encore, aujourd'hui, lorsque nous voyons tout ce qui se passe, nous ne nous posons pas la question, mais voilà, je peux mourir là, aujourd'hui ou demain, et il faut que je me repente. Le Seigneur, dans Ézéchiel, il dit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Dans Ézéchiel 18, les versets 23 et 30 à 32. « C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Vous voyez, donc, le message que Ézéchiel adressait à son peuple Israël, ce message qui est encore valable aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu veut, il ne veut pas que l'homme meure, il veut qu'il vive. Donc revenez à l'Éternel, détournez-vous de vos mauvaises voies, repentez-vous. Le Seigneur donc appelle à une réelle repentance. Et la repentance dont il s'agit n'est pas seulement un changement d'idée à propos d'une mauvaise attitude. Ah, ça, j'ai fait ça, j'ai mal fait, ben, ok. Non, c'est pas juste ça. La repentance, selon Dieu, c'est, on reconnaît notre péché, on reconnaît qu'on a offensé Dieu par notre vie, et on se détourne de ces mauvaises voies, on se tourne vers Dieu, et on croit en Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui peut nous délivrer du mal. Et le Seigneur, dans Actes, lorsque l'apôtre Pierre il a prêché la parole, les gens disent, mais que ferons-nous? Que ferons-nous? Et il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Que ferez-vous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, chacun doit se poser cette question. Voilà, suis-je en règle avec Dieu? Ai-je l'assurance d'être sauvé? Si une calamité, si un malheur tombe sur moi, est-ce que là je suis, est-ce que je suis prêt si je dois partir aujourd'hui? Ça doit nous encourager à prier, à intercéder pour nos proches, nos enfants, et leur dire cela aussi. Il faut que tu te repentes. Ce dont tu as besoin, c'est que tu te repentes, que tu retournes à Dieu. Les catastrophes ont pour but de nous pousser à la repentance, mais en fait, il y a aussi la bonté de Dieu. Lorsqu'on voit la bonté de Dieu, la compassion de Dieu, ça doit aussi nous pousser à la repentance. Et je vais terminer avec ce passage de Romains. Romains chapitre 2, on va le lire ensemble. Dieu peut utiliser toutes sortes de choses pour nous pousser à réfléchir et à voir combien nous avons besoin de lui, nous devons dépendre de lui. Et parfois, les catastrophes sont là pour vraiment éveiller notre conscience. Mais combien Dieu use de bonté, Dieu use de miséricorde, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est là. Ça doit pousser aussi l'homme à la repentance. C'est pas parce qu'il y a un malheur que je vais me tourner vers Dieu. Faut-il attendre qu'il y ait un malheur pour se tourner vers Dieu? Malheureusement, vous savez, beaucoup attendent qu'il y ait un malheur pour se tourner vers Dieu. Ils attendent d'être dans une situation catastrophique et puis, non. Mais voyez la bonté de Dieu envers vous. Voyez la grâce de Dieu envers vous. Vous avez une bonne santé, vous vous levez, vous avez... Merci Seigneur. Et adorez ce Dieu fidèle, ce Dieu plein de compassion. Adorez-le, servez-le. Il faut malheureusement attendre qu'il y ait quelque chose de grave qui arrive pour se réfléchir et dire « Ah ben, je vais retourner à l'église ou bien je vais plus prier, je vais lire ma Bible parce qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. » Faut-il toujours attendre qu'il y ait une catastrophe pour commencer à réfléchir à Dieu? Dans Romains chapitre 2, l'apôtre Paul, après avoir parlé de la situation des païens qui préfèrent adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur, il met en garde ceux de son peuple. Il dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Amen. Pensez ce chant, entends-tu, Jésus t'appelle? Voilà, encore aujourd'hui est jour de salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il faut vous repentir. Et si vous ne le faites pas, vous périrez également. Donc, que le Seigneur puisse agir dans vos cœurs. Et ça doit nous encourager à continuer à persévérer dans la voie du Seigneur.